Salut à tous et bienvenue sur Radio Campus Pau 98.8 sur vos radios. Vous êtes avec Hugo, Lisa et Théo pour un tout nouvel épisode de votre Campus Zoom. Salut à tous les deux.
Salut Hugo.
Salut Hugo, salut Lisa.
Salut Théo.
Et aujourd'hui, on se retrouve pour votre émission bimensuelle qui visera plus spécifiquement les étudiants sur différents thèmes qui les concernent. Je vais vous parler de cet épisode, mais sachez d'ores et déjà que le nouvel épisode du Campus Zoom portera sur le thème des relations étudiantes, à savoir les amitiés, l'amour et les réseaux. Alors n'hésitez pas à vous mettre un rappel et à nous écouter le 17 décembre, le jour de la diffusion de l'émission. Et pour ce troisième épisode, nous allons vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est essentiel dans notre vie. En effet, aujourd'hui, nous allons vous parler de la santé sexuelle sous ses différentes formes. Et pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous avons récolté des informations à vous partager afin d'avoir une connaissance plus ample sur ce sujet qui peut parfois être un sujet tabou. Notre but aujourd'hui est de vous en parler de façon claire et explicite pour briser ce sujet tabou. Et nous allons rapidement vous expliquer comment va se dérouler cet épisode de Campus Zoom.
Et en effet, aujourd'hui nous allons vous parler de la santé sexuelle, avec tout d'abord les moyens de contraception les plus efficaces, mais aussi les moins efficaces à éviter de reproduire, ce qui nous amènera à vous parler des maladies qui existent autour de ce sujet. Nous verrons alors quels sont les dépistages et les centres qui peuvent vous aider, comme le planning familial, et nous nous pencherons ensuite sur la question du consentement ainsi que des cas de viol. Enfin, nous vous présenterons les différents examens qui existent concernant votre santé sexuelle. Et commençons directement avec quelques faits et quelques chiffres. Un rapport de l'OMS met en lumière une baisse alarmante de l'utilisation des préservatifs chez les adolescents en Europe. Depuis 2014, la proportion des jeunes utilisant des préservatifs a diminué, exposant les adolescents à des risques accrus d'infections sexuellement transmissibles, aussi appelées IST, et de grossesses non désirées. En 2022, près d'un tiers des adolescents sexuellement actifs n'ont utilisé ni préservatif ni contraceptif. Ce phénomène résulte en partie d'un manque d'éducation sexuelle complète et adaptée. L'OMS appelle à des actions d'urgence, renforcer l'éducation sexuelle dans les écoles, améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et promouvoir un dialogue ouvert. Ces mesures sont essentielles pour permettre aux jeunes de faire des choix éclairés et protéger leur santé. Lors des 6e rencontres prévention santé, la Fondation Ramsès Santé a mis en lumière les préoccupations de la génération Z concernant leur santé sexuelle. Une enquête menée auprès de 1000 jeunes de 15 à 25 ans révèle que 64% d'entre eux s'informent principalement via Internet et les réseaux sociaux comme Google, TikTok, Instagram ou encore YouTube et parfois même la pornographie. Cependant, la sexualité devient moins taboue. 22% des jeunes en parlent avec leurs proches. Cependant, 38% jugent les cours d'éducation sexuelle insuffisants. La prévention des infections sexuellement transmissibles et la contraception sont des préoccupations majeures, notamment chez les femmes. Face à ces défis, la génération Z se positionne comme ambassadrice pour sensibiliser les futures générations et briser les tabous autour de la santé sexuelle.
Et l'étude Les jeunes et leur santé révèle que la sexualité dès 18-25 ans est plutôt épanouie, mais un jeune sur 5 se dit insatisfait. Certains souffrent de troubles physiques, 5%, ou liés au rapport, 3%. Cependant, un tabou persiste autour de la santé sexuelle avec une baisse notable des demandes d'accompagnement depuis la Covid-19. Certains experts estiment que la pornographie omniprésente et incontrôlée est devenue une source d'information déformée pour les jeunes, ce qui peut mener à des comportements inappropriés. Concernant les risques, seuls 11% des jeunes admettent avoir eu des rapports non protégés avec des partenaires occasionnels et 9% pratiquent des comportements à risque. Pourtant, bien que certaines infections sexuellement transmissibles soient connues, les actions de dépistage restent limitées avec 75% des jeunes sexuellement actifs ne réalisant pas de tests régulièrement. Enfin, les réseaux sociaux montrent une tendance à dévaloriser les rapports amoureux et sociaux, avec une forte influence de l'idée de se concentrer sur soi-même. Ce phénomène, relayé par le hashtag Focus on Yourself, encourage un retrait de la vie amoureuse au profit du développement personnel, parfois au détriment du sommeil et des objectifs de vie. Cette évolution souligne la nécessité d'une meilleure information et sensibilisation à la santé sexuelle pour plus de sécurité et de plaisir. Et je vais laisser la parole à Théo, étudiant en médecine, qui nous a gentiment proposé son aide pour construire et participer à ce Campus Zoom.
Merci Hugo. Donc pour commencer, je vais expliquer ce que c'est qu'un contraceptif. Donc un contraceptif, c'est un moyen permettant d'avoir des rapports sexuels sans risquer une grossesse et donc en maîtrisant sa fertilité. Aujourd'hui, il en existe deux grands types. On a d'abord les contraceptifs dits mécaniques et les contraceptifs dits hormonaux. Pour ce qui est des mécaniques, ce sont des méthodes qui agissent en empêchant physiquement la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. On a par exemple le préservatif, qu'il soit interne ou externe, le DIU, dispositif intra-utérin au cuivre, souvent appelé stérilé au cuivre, le diaphragme et la cape cervicale. Il existe aussi des méthodes naturelles appelées méthodes de contrôle de la fertilité qui reposent sur l'observation des signes du corps pour éviter une grossesse. Pour ce qui est des contraceptifs hormonaux, ce sont des méthodes qui utilisent les hormones pour empêcher l'ovulation ou modifier la muqueuse utérine afin d'empêcher la grossesse. Parmi ces méthodes, on retrouve les pilules contraceptives, qu'elles soient combinées ou progestatives, le DIU, donc dispositif intra-utérin hormonal, dit stérilé hormonal, l'anneau vaginal, les implants contraceptifs, le patch contraceptif, ainsi que les progestatifs injectables. En plus de ces méthodes hormonales et mécaniques, il existe également des spermicides qui sont des substances qui détruisent les spermatozoïdes, ainsi que la contraception définitive, qui consiste en des interventions chirurgicales irréversibles pour ne plus avoir d'enfants. Enfin, en cas de besoin urgent, on peut avoir aussi recours à une contraception d'urgence qui permet de prévenir une grossesse après un rapport sexuel non protégé. Pour commencer, donc le préservatif externe, c'est une méthode de contraception accessible et efficace, offrant une protection contre les IST. Facile à utiliser, il se place sur le pénis en érection avant toute pénétration, retenant le sperme et empêchant le contact des muqueuses. Il est disponible en latex ou en polyutérane pour les personnes allergiques au latex. Pour garantir son efficacité, il est important de l'utiliser dès le début du rapport et de le changer si vous changez de type de pénétration. Bien que théoriquement efficace à 98%, son taux de protection baisse à 85% en cas de mauvaise utilisation. Il convient toujours de vérifier la date de péremption, l'état de l'emballage et d'utiliser un gel lubrifiant à base d'eau ou de silicone pour éviter les risques de rupture. En cas d'accident, il est recommandé d'avoir une contraception d'urgence à disposition, gratuite et accessible à toutes et à tous, notamment en moins de 26 ans. Depuis 2023, le préservatif externe est gratuit pour les moins de 26 ans en pharmacie et dans les centres de santé sexuelle. Il est recommandé pour ceux qui n'ont pas de partenaire stable ou qui souhaitent éviter les contraceptifs hormonaux. Il est important de choisir un préservatif certifié CE ou NF et adapté à votre taille. Pour les plus de 26 ans, il est partiellement pris en charge par l'assurance maladie.
Le préservatif interne, parfois appelé préservatif féminin, est une méthode de protection moins connue mais très efficace. Fabriqué en nitrile, polyuréthane ou latex, il est composé de deux anneaux, un anneau fermé qui s'insère dans le vagin pour le maintenir en place et un anneau ouvert qui reste à l'extérieur pour couvrir la vulve. Il peut être inséré jusqu'à 8 heures avant un rapport, puis retiré après en faisant attention à ne pas laisser s'échapper le sperme. Bien que son efficacité théorique soit de 95%, elle descend à 79% en pratique à cause des erreurs d'utilisation. Il est recommandé de l'utiliser avec un autre moyen de contraception pour une protection optimale. Depuis janvier 2024, il est gratuit pour les moins de 26 ans et remboursé à 60% sur prescription médicale pour les autres. Il protège contre les IST, convient aux personnes allergiques au latex et est pratique car il peut être inséré à l'avance sans nécessité de le retirer immédiatement après l'éjaculation. Le préservatif interne est idéal pour les personnes sans partenaire stable ou celles qui ne souhaitent pas de contraception hormonale, ainsi que pour les personnes allergiques au latex. Son coût est d'environ 2,80€ par unité, sauf en cas de prise en charge. Il peut nécessiter un peu d'entraînement pour bien le poser, mais une fois maîtrisé, c'est une alternative efficace et discrète pour une sexualité protégée.
Le DIU, ou dispositif intra-utérin, est une méthode de contraception fiable et durable. Il existe deux types principaux, le DIU au cuivre et le hormonal. Le DIU au cuivre empêche la fixation de l'œuf dans l'utérus et inactive les spermatozoïdes, tandis que le DIU hormonal libère une hormone qui bloque les spermatozoïdes et peut réduire la durée des règles. Le DIU est inséré par un professionnel de santé, généralement un gynécologue ou une sage-femme. Il peut être posé à tout moment du cycle. Pour le DIU au cuivre et idéalement dans les 7 premiers jours, pour le DIU hormonal, la pose est rapide et un fil est laissé visible pour faciliter le retrait. Très efficace, avec un taux de réussite supérieur à 99%, le DIU au cuivre peut être utilisé comme contraception d'urgence s'il est posé dans les 5 jours suivant un rapport non protégé et dure entre 4 et 10 ans. Le DIU hormonal protège jusqu'à 5 ans, il est discret, ne nécessite aucune action quotidienne et peut être oublié pendant plusieurs années. Bien que les effets secondaires existent comme des règles plus abondantes avec le DIU au cuivre ou des saignements irréguliers avec le DIU hormonal, sexuelle. Cette méthode reste très appréciée pour sa praticité. Elle est remboursée pour les moins de 26 ans et partiellement pour les plus de 26 ans.
Passons désormais au diaphragme contraceptif. C'est une méthode réversible et sans hormones conçue pour empêcher les spermatozoïdes d'atteindre l'utérus en recouvrant le col de l'utérus. Pour garantir son efficacité, il doit être utilisé avec un spermicide. Il peut être inséré jusqu'à 2 heures avant un rapport sexuel et doit rester en place pendant au moins 8 heures après, sans dépasser les 24 heures. Réutilisable, il nécessite un entretien minutieux après chaque utilisation avec de l'eau tiède et un savon doux. Le diaphragme présente une efficacité théorique de 94% lorsqu'il est utilisé correctement, mais cette efficacité chute à 88% en cas d'erreur ou d'utilisation irrégulière. Pratique et discret, il peut être posé à l'avance et ne cause pas de douleur. Il est également une alternative idéale pour celles qui ne souhaitent pas utiliser de contraception hormonale. Son coût est abordable, mais il peut être plus difficile à manipuler pour certaines femmes et moins efficace que d'autres méthodes, comme le stérilet ou l'implant. Le diaphragme est adapté aux femmes à l'aise avec leur anatomie, cherchant une contraception non hormonale. Il est déconseillé en cas de risque médical lié à la grossesse ou d'infection urinaire fréquente. Il peut être acheté en pharmacie ou en centre de santé sexuelle après une consultation médicale et est pris en charge à 100% pour les moins de 26 ans. Pour une utilisation optimale, il est essentiel de respecter les règles d'hygiène et d'entretien.
Et enfin, nous allons vous parler de la cape cervicale, qui est un dispositif de contraception en silicone ou latex qui recouvre le col de l'utérus pour empêcher les spermatozoïdes d'y accéder. Elle doit être utilisée avec un spermicide et peut être insérée jusqu'à 2 heures avant un rapport. Elle peut être réutilisée pendant 1 an. Son efficacité théorique est de 91% pour les femmes sans enfants et 74% pour celles ayant accouché, mais l'efficacité réelle est plus basse en raison de la manipulation. Cette méthode a des avantages, elle est non hormonale, réutilisable et économique, mais elle a aussi des inconvénients, sa pose demande un apprentissage et son efficacité est inférieure à d'autres méthodes. Elle est déconseillée en cas de problèmes urinaires fréquents, son coût est d'environ 60€ mais n'est pas remboursé. Il est donc conseillé de consulter un professionnel avant de l'adopter.
Et maintenant, parlons des contraceptifs dits hormonaux et on commence avec la pilule contraceptive, disponible en deux types, la combinée et la microprogestative. Elles contiennent des hormones similaires à celles produites naturellement par le corps. Les pilules combinées agissent principalement en bloquant l'ovulation et régulant le cycle menstruel, tandis que la microprogestative modifie la glaire cervicale et parfois bloque l'ovulation. Elles doivent être prises à la même heure chaque jour avec des plaquettes de 21 ou 28 comprimés. Les effets secondaires incluent un risque accru de thrombose avec les pilules combinées, notamment chez les femmes de plus de 35 ans qui fument. L'efficacité théorique de la pilule est supérieure à 99,7%, mais en pratique, elle chute à environ 91% en raison d'oubli ou d'interactions médicamenteuses. Elle est immédiatement efficace si prise dès le premier jour des règles, mais nécessite une contraception complémentaire pendant 7 jours si commencée plus tard. Les pilules sont prescrites par un médecin et coûtent entre 1 et 10 euros par mois, souvent remboursées à 65% et gratuites pour les moins de 26 ans pour certaines générations de pilules. Les pilules combinées comportent un risque de thrombose veineuse dont l'incident varie selon la génération de la pilule avec un risque plus élevé pour les pilules de 3e et 4e génération. Il est important de prendre la pilule à heure fixe pour maximiser son efficacité et en cas d'oubli de recourir à une contraception d'urgence. Une consultation préalable avec des professionnels de santé est recommandée pour choisir la pilule la plus adaptée à vos besoins.
Après la pilule, on passe à l'anneau vaginal qui est un dispositif contraceptif flexible en plastique qui libère des hormones, œstrogènes et progestatifs pour prévenir la grossesse. Il est inséré profondément dans le vagin où il diffuse les hormones pour une absorption directe dans le sang. Il doit être porté pendant 3 semaines suivi d'une semaine sans anneau durant laquelle les règles apparaissent. Ensuite, un nouvel anneau est inséré. Bien qu'il soit très efficace avec un taux théorique de 99,7%, son efficacité pratique est seulement de 91%, en raison d'erreurs et d'oubli possibles. Il présente les avantages notables par rapport à la pilule, notamment la praticité, car il n'est pas nécessaire de penser à une prise quotidienne. Toutefois, il peut entraîner des effets secondaires similaires à ceux de la pilule combinée, comme des nausées ou des douleurs mammaires, et il n'est pas adapté aux femmes ayant des contre-indications à ces contraceptifs. Passons à l'implant contraceptif, qui est un bâtonnet inséré sous la peau du bras non dominant où il libère une hormone progestative de manière continue. Ce dispositif est particulièrement apprécié pour son efficacité de 99,9% et il peut agir pendant 3 ans sans nécessité d'action quotidienne. S'il est inséré entre le 1er et le 5e jour du cycle menstruel, il est immédiatement efficace. Toutefois, si l'implant est inséré à un autre moment, l'utilisation de préservatifs est recommandée pendant les 7 premiers jours. l'implant présente l'avantage d'être discret et pratique, idéal pour les femmes ayant des difficultés après une pilule quotidienne. En revanche, il peut entraîner des effets secondaires tels que les irrégularités menstruelles, de l'acné et une prise de poids chez certaines femmes. Ces deux méthodes, bien qu'efficaces, nécessitent un suivi médical et une prescription. L'implant est disponible sur ordonnance et est remboursé par l'assurance maladie pour les moins de 26 ans, avec un coût de 101,58 euros pour les plus de 26 ans. De son côté, l'anneau vaginal est également délivré sur ordonnance, mais il n'est pas remboursé et coûte environ 15 euros par mois. Chacune de ces solutions présente des avantages et des inconvénients qui doivent être évalués en concertation avec un professionnel de santé, notamment en fonction des préférences personnelles, des antécédents médicaux et des besoins spécifiques de chaque femme.
Et parlons maintenant du patch contraceptif, qui est un timbre qui libère des hormones, des œstrogènes et progestatifs pour bloquer l'ovulation et prévenir d'une grossesse. Il se colle sur la peau une fois par semaine pendant 3 semaines, puis une semaine sans patch qui entraîne des saignements semblables aux règles. Son efficacité théorique est de 99,7%, mais elle chute à 91% en raison des oublis ou erreurs. En cas de décollement ou d'oubli, des précautions doivent être prises. Son avantage est qu'il est pratique, discret et ne nécessite pas une prise quotidienne. Et son inconvénient sont les effets secondaires possibles avec des nausées, des migraines, une certaine visibilité, un risque de décollement et un coût élevé, environ 15 euros. Il est recommandé pour les femmes de moins de 45 ans et nécessite une prescription et peut être acheté en pharmacie.
Et enfin, la contraception définitive qui inclut la vasectomie pour les hommes et la ligature des trompes pour les femmes est une méthode chirurgicale irréversible pour ceux qui ne souhaitent plus avoir d'enfants. La vasectomie est rapide et nécessite une période d'attente de 8 à 16 semaines pour être efficace, tandis que la ligature des trompes est immédiate. Ces méthodes sont partiellement remboursées par l'assurance maladie. Les spermicides comme les crèmes ou gels sont des substances qui neutralisent des spermatozoïdes, mais leur efficacité est faible. De 18 à 29% d'échecs et ne protègent pas contre les IST. Utilisés avec des méthodes barrières, ils sont pratiques mais ne conviennent pas à tout le monde, notamment aux personnes sujettes aux infections vaginales.
En cas d'oubli de pilule, de rupture d'un préservatif ou d'une expulsion de l'anneau vaginal, la contraception d'urgence hormonale est la solution rapide. Elle doit être prise sans délai car son efficacité dépend du temps écoulé après le rapport à risque. La pilule d'urgence contenant soit du lévénorgestrel, soit de l'ulipristal acétate retarde l'ovulation, empêchant ainsi la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Si la pilule est prise dans les 72 heures pour le lévénorgestrel ou dans les 120 heures pour l'ulipristal acétate, elle reste très efficace, mais cette efficacité diminue avec le temps. Le choix entre la pilule et le dispositif ultra-intra-utérin DU d'urgence dépend des préférences et des circonstances de chaque personne. La pilule d'urgence est une méthode simple et rapide, mais elle nécessite une prise dans un délai précis et n'est pas efficace si la grossesse a déjà commencé. De plus, elle ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles. Le DU d'urgence, souvent au cuivre, est une méthode plus invasive mais extrêmement efficace, avec un taux d'échec inférieur à 1%. Il peut être utilisé jusqu'à 5 jours après le rapport à risque et présente l'avantage de pouvoir être laissé en place pour une contraception à long terme.
Et bien que la contraception d'urgence soit accessible à la plupart des femmes, certaines situations comme des vomissements ou la prise de certains médicaments peuvent réduire son efficacité. De plus, des effets secondaires tels que les nausées, les douleurs abdominales ou les irrégularités menstruelles peuvent apparaître après son utilisation. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour s'assurer de la méthode la plus appropriée, notamment pour les femmes ayant des contre-indications médicales spécifiques telles que des infections génitales ou des troubles hormonaux. Et saviez-vous, chers étudiants, que le remboursement des moyens de contraception peut varier selon votre âge? Si vous avez moins de 26 ans, certaines contraceptions sont intégralement remboursées par l'assurance maladie. Par exemple, le dispositif intra-utérin, la pilule et l'implant contraceptif sont remboursés à 100%, tandis que le patch contraceptif et l'anneau vaginal ne sont pas pris en charge. Les préservatifs externes et internes de certaines marques sont distribués gratuitement dans les centres de santé sexuelle et les centres de dépistage sans prescription et accessibles à tous. Les progestatifs injectables et la contraception définitive comme la stérilisation sont également partiellement ou totalement remboursés. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour choisir la méthode la plus adaptée à vos besoins et profiter des solutions disponibles pour votre santé sexuelle.
Et maintenant, parlons d'un sujet essentiel pour notre santé et celle de nos partenaires, les infections sexuellement transmissibles ou IST. Déjà, nous allons commencer avec les bases. La communication est primordiale. Informer son ou sa partenaire si l'on a une IST est une preuve de respect et de responsabilité. Et c'est aussi un pas crucial pour se protéger mutuellement. Les IST se transmettent principalement lors de relations sexuelles, sans protection, par contact avec la vulve, le vagin, le pénis, l'anus, les lèvres, la bouche, les mains ou encore des sextoys non protégés. Mais bonne nouvelle, la plupart des IST se soignent. Mais si elles ne sont pas dépistées à temps et traitées, elles peuvent entraîner des complications graves. Le problème, c'est qu'elles se transmettent très facilement et qu'il n'y a pas toujours de signes visibles. Pour savoir si l'on est atteint, le dépistage régulier est indispensable, car une IST ne guérit pas seule. Il faut consulter un médecin et suivre le traitement adapté. Certains symptômes doivent vous alarmer, brûlures, démangeaisons, écoulements, mauvaise odeur, fatigue, fièvre, angine, boutons, grosseur au creux de l'aine, lésions ou douleur dans le bas-ventre. Et n'oubliez pas, l'absence de symptômes ne signifie pas l'absence d'infection. Pour vous protéger, seuls les préservatifs internes, externes et le carré de latex sont efficaces. En somme, communiquer, se protéger et se faire dépister régulièrement sont les trois piliers d'une vie sexuelle saine et sereine.
Si vous êtes inquiet après un rapport sexuel non protégé ou à risque avec un partenaire au statut sérologique ou séropositif, c'est-à-dire une personne atteinte du VIH ou du sida, un traitement post-exposition permet de réduire le risque de contamination. Rendez-vous dans les 4 heures qui suivent et au plus tard 48 heures aux urgences ou chez un médecin qui évalue avec vous l'intérêt de prescrire un traitement. Pour vous protéger, plusieurs solutions existent, les préservatifs internes ou externes qui restent indispensables pour éviter les IST, les dépistages qui sont des tests simples et rapides qui impliquent souvent une prise de sang, mais parfois aussi un test urinaire ou bien un prélèvement local pour les infections les plus coriaces, les vaccins, fiable et efficace, disponible sur prescription médicale et pris en charge par l'assurance maladie pour l'hépatite B et le papillomavirus. Ils sont donc gratuits pour vous. On a enfin la PrEP, qui est une stratégie préventive contre le VIH basée sur la prise d'un médicament et qui permet aux personnes séronégatives d'éviter une contamination. Attention toutefois, la PrEP ne protège que du VIH, pas des autres IST. Prenez soin de vous et des autres.
Et on va maintenant vous parler plus en détail des différentes IST qui existent. Les infections à la chlamydia sont les IST les plus courantes chez les moins de 25 ans, touchant aussi bien les hommes que les femmes. Elles passent souvent inaperçues car elles ne présentent pas de signes visibles. Cependant, certains symptômes peuvent inclure de la fièvre, des douleurs dans le bas-ventre ou encore des douleurs lors des rapports sexuels. Alors pour dépister cette infection, les femmes doivent effectuer un prélèvement vaginal, tandis qu'une analyse d'urine est suffisante pour les hommes. Heureusement, la chlamydia se traite efficacement avec des antibiotiques pris par voie orale. Cependant, sans traitement, les risques peuvent être sérieux, problèmes de fertilité, grossesse extra-utérine et transmission de l'infection au nouveau-né lors de l'accouchement si la mère est infectée. Ensuite, il y a la gonorrhée, une IST causée par une bactérie. Elle est en forte recrudescence, en particulier chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Les principaux symptômes incluent des brûlures pendant la miction et des écoulements douloureux. La gonorrhée se traite à l'aide d'antibiotiques souvent associés à un traitement local. Il est essentiel que les partenaires sexuels soient traités simultanément pour éviter une réinfection mutuelle. Sans traitement, la gonorrhée peut entraîner des complications graves, telles qu'une infertilité et une vulnérabilité accrue au VIH.
La syphilis, également causée par une bactérie, se manifeste par l'apparition de boutons, de plaques rouges sur le corps, souvent accompagnées de fièvre. Elle se traite efficacement à l'aide d'antibiotiques, soit par voie orale, soit par injection. Cependant, si elle n'est pas prise en charge, la syphilis peut causer des complications graves, touchant le cerveau, les nerfs, le cœur, les artères et les yeux. Et dans les cas les plus sévères, elle peut même entraîner la mort. Ensuite, nous avons le papillomavirus ou HPV qui regroupe plus de 200 types de virus très contagieux dont certains peuvent provoquer des verrues génitales ou des cancers de la sphère orogénitale. Environ 75% des personnes sexuellement actives seront exposées à un ou plusieurs types au cours de leur vie. Le dépistage se fait par examen médical, frottis vaginal ou biopsie. Les traitements incluent des solutions locales, le laser ou même la chirurgie. Dans 90% des cas, le HPV est éliminé naturellement par le corps, mais dans les 10% restants, il peut persister et entraîner des cancers. La vaccination et le dépistage régulier sont essentiels pour prévenir les complications. Enfin, l'hépatite B est une infection du foie qui peut entraîner des complications graves, comme la cirrhose ou le cancer du foie. Les symptômes incluent douleurs musculaires, fatigue, fièvre, maux de tête, nausées, urine foncée et jaunissement de la peau. et des yeux. Bien qu'il ne soit pas possible de guérir sans traitement, certains deviennent porteurs chroniques et nécessitent un suivi médical et un traitement. La prévention repose sur la vaccination, le dépistage régulier et l'utilisation de préservatifs.
Passons désormais au VIH, un sujet crucial qui touche des millions de personnes dans le monde. VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, c'est un virus qui attaque et détruit les cellules immunitaires essentielles, les lymphocytes T. Ces cellules sont responsables de la défense de notre corps contre les infections. Les premières années après l'infection, les personnes séropositives ne présentent aucun symptôme et leur système immunitaire continue de fonctionner normalement. Mais sans traitement, le VIH peut détruire lentement ce système, menant à la phase finale de la maladie, le sida, environ 7 ans après l'infection. Il se transmet principalement par voie sexuelle, par contact sanguin, ou de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Les symptômes varient selon les stades de l'infection, avec une phase initiale souvent comparable à une grippe, puis une longue période sans symptômes apparents. Mais au fur et à mesure que le virus progresse, des signes comme la perte de poids, des infections de la peau ou des fièvres peuvent apparaître. Si aucune thérapie n'est suivie, la maladie peut évoluer vers le sida, où le système immunitaire est complètement affaibli et des maladies opportunistes peuvent se développer, comme des infections ou bien même certains cancers. Pour diagnostiquer l'infection, un simple test sanguin peut détecter la présence du virus. Il est recommandé de se faire dépister après un comportement à risque ou l'apparition de symptômes. Un diagnostic précoce est essentiel pour commencer un traitement, car les antirétroviraux actuels peuvent bloquer la multiplication du virus, permettant aux personnes séropositives de mener une vie quasi normale. Cependant, il n'existe pas encore aujourd'hui de remède pour éliminer complètement le VIH.
Les traitements modernes, appelés trithérapie, combinent trois médicaments pour limiter la progression de l'infection. Ils sont très efficaces s'ils sont pris dès le début de l'infection et permettent aux patients de vivre longtemps presque sans symptômes. Malheureusement, une majorité de personnes infectées dans le monde n'ont pas accès à ces traitements. La prévention reste la meilleure arme contre le VIH. Le port du préservatif, l'usage de seringues stériles et la PrEP, prophylaxie pré-exposition, sont des moyens très efficaces pour se protéger. La PrEP, par exemple, réduit de 99% le risque de transmission lors de rapports sexuels non protégés. En résumé, bien qu'il n'y ait pas de vaccin contre le VIH, des traitements existent pour permettre aux personnes séropositives de vivre longtemps et en bonne santé. Le dépistage, la prévention et la prise en charge rapide sont essentiels pour lutter contre l'épidémie. Et n'oubliez pas, se protéger et se faire dépister sont les premières étapes pour se protéger et protéger les autres.
Et si vous écoutez généralement le Campus Mag, vous le connaissez sûrement, mais il existe aussi le planning familial. Mais alors, pour ceux qui ne le savent pas, voici à quoi il sert. Le planning familial est un centre de planification où vous pouvez discuter de sujets variés liés à la sexualité, la contraception, l'avortement, les violences ou encore les difficultés relationnelles et familiales. Il offre un espace sécurisé et confidentiel pour aborder des questions sensibles telles que les accidents de préservatifs, les rapports sans protection ou l'oubli de pilules. Le centre fournit également un soutien aux victimes de violences, notamment d'attouchements, d'incestes ou de viols, et propose des consultations gynécologiques et la possibilité de réaliser un IVG sans hospitalisation. En plus de ces services, le planning familial offre diverses consultations telles que la pose de pilules, de stérilets et d'implants, ainsi que la contraception d'urgence. Vous pouvez également bénéficier d'un diagnostic de grossesse, de bilan gynécologique et de dépistage gratuit. Pour les infections sexuellement transmissibles ou IST encore une fois, toutes les consultations sont anonymes et confidentielles, disponibles sans rendez-vous même pour les mineurs et les non-assurés sociaux. Le centre est un lieu d'écoute et de soutien idéal pour obtenir des conseils sur la santé sexuelle et reproductive.
Pour ce qui est de l'interruption volontaire de grossesse, IVG, elle peut se faire par deux méthodes, la méthode médicamenteuse et la méthode instrumentale. La méthode médicamenteuse est possible jusqu'à la fin de la 9e semaine après le début des dernières règles, soit 7 semaines de grossesse. Elle débute par une consultation médicale, vous serez informé des différentes options, un bilan sanguin et une échographie vous seront prescrits. Ensuite, vous prenez un premier comprimé pour interrompre la grossesse, suivi d'un second comprimé 24 à 48 heures plus tard, à domicile ou en hospitalisation ambulatoire pour expulser l'embryon. Cette méthode peut aussi être réalisée chez vous avec la présence d'un proche. Si le délai pour l'IVG médicamenteuse est dépassé ou s'il a échoué, on opte pour la méthode instrumentale, possible jusqu'à 16 semaines après les dernières règles, soit 14 semaines de grossesse. Réalisée sous anesthésie locale ou générale dans un établissement de santé agréé, elle comprend une consultation préalable avec un bilan sanguin. Réalisée sous anesthésie locale ou générale dans un établissement de santé agréé, Elle comprend une consultation préalable avec bilan sanguin, échographie et préparation anesthésique. L'intervention dure environ 10 minutes au bloc opératoire, suivie d'un temps de repos dans l'établissement. Enfin, une consultation post-IVG doit être prévue 14 à 21 jours après l'intervention pour vérifier le bon déroulement de la procédure. Dans les deux cas, un suivi médical et un accompagnement adapté sont assurés pour vous soutenir à chaque étape.
Et on va maintenant vous parler des différents types d'examens qui existent. Et on va commencer avec le plus connu et celui qui fait le plus peur, à savoir le frottis cervico-vaginal. Le frottis du col de l'utérus est un examen crucial pour prévenir le cancer du col de l'utérus en détectant d'éventuelles anomalies cellulaires. Lors de cet examen, des cellules sont prélevées du col utérin pour être analysées au microscope ou un test HPV-HR peut être réalisé pour rechercher l'ADN du virus du papillome humain à haut risque. L'examen est rapide et indolore, consistant à insérer un spéculum pour écarter les parois du vagin, permettant aux professionnels de santé de prélever des cellules sur le col utérin à l'aide d'une spatule ou d'un écouvillon. Ces prélèvements sont ensuite envoyés au laboratoire pour analyse. Il est recommandé de réaliser un frottis tous les 3 ans pour les femmes âgées de 25 à 65 ans dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Le coût de l'examen varie entre 15 et 30 euros, mais il est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale pour toutes les femmes de 25 à 65 ans dans le cadre du dépistage organisé. Si l'examen est effectué en dehors de ce cadre, un remboursement partiel peut s'appliquer. Le frottis peut être réalisé chez un gynécologue, un médecin généraliste, une sage-femme ou dans d'autres centres de santé. Ce dépistage essentiel pour la prévention du cancer du col de l'utérus permet une détection précoce et un suivi médical approprié.
Ensuite, nous avons la consultation gynécologique et qui est un suivi essentiel de la santé reproductive des femmes. Elle permet d'aborder divers sujets tels que la contraception, la grossesse et les troubles gynécologiques. L'examen comprend généralement l'inspection des organes génitaux externes et un toucher vaginal ou rectal. Le gynécologue peut également proposer un frottis ou d'autres examens complémentaires selon les besoins. Le prix des consultations varie entre 25 et 50 euros et elles sont généralement remboursées à 70% par la Sécurité sociale avec une prise en charge de 100% pour certains examens comme le suivi de grossesse ou le traitement des pathologies spécifiques. Ces consultations peuvent être réalisées dans un cabinet de gynécologie, en hôpital ou dans un centre de santé. Enfin, l'échographie pelvienne, quant à elle, est une méthode d'imagerie médicale qui utilise les ultrasons pour examiner les organes de l'abdomen et du pelvien. Cet examen est sans risque d'irradiation. L'échographie peut être réalisée par voie transcutanée, donc à travers la peau, ou endocavitaire, par voie vaginale ou rectale. Elle sert à diagnostiquer les pathologies comme des tumeurs, des infections et des calculs, et permet également de suivre le développement des organes fœtaux pendant la grossesse. Le prix de l'échographie varie entre 50 et 100 euros, avec un remboursement de 70% par la Sécurité sociale et 100% pour les échographies de suivi de grossesse. Elle peut être effectuée dans un centre de radiologie, service hospitalier ou par des sages-femmes selon le type d'examen.
Qui dit relation sexuelle dit forcément consentement. C'est un apprentissage qui se construit à travers la communication, le respect et l'écoute mutuelle. Il ne se limite pas à un simple accord, mais nécessite de comprendre les désirs, les limites et les besoins de l'autre, tout en sachant que le consentement peut évoluer et être révoqué à tout moment. Ce processus est toujours réciproque dans une relation, qu'elle soit amoureuse, sexuelle ou bien autre. Le consentement peut se manifester de manière verbale ou gestuelle, explicite ou implicite, mais doit toujours être clair, exprimé sans ambiguïté et ne pas être donné sous contrainte. Dans son ouvrage « Troubles dans le consentement », Alexia Bouchery souligne que le consentement doit être formulé de manière à éliminer tout doute. Et Maya Mazorette propose l'idée d'un consentement enthousiaste, c'est-à-dire un consentement actif et réaffirmé avant, pendant et même après l'acte. L'essentiel est que l'autre personne puisse changer d'avis à tout moment, sans pression. Pour favoriser des relations fondées sur le consentement, il est crucial de discuter de sexe et de sexualité, de respecter les envies et les refus de l'autre, et de ne pas présumer qu'une relation amoureuse implique nécessairement des rapports sexuels. Il est aussi important de prendre en compte les inégalités structurelles qui existent dans la société, car elles peuvent influencer les dynamiques de pouvoir dans les relations. Le consentement ne doit jamais être forcé, et en cas de doute, il est essentiel de demander et de s'assurer que l'autre est à l'aise et d'accord.
Alors découvrons maintenant les chiffres qui illustrent le consentement. L'enquête de Nous Toutes révèle des chiffres alarmants concernant le consentement de la pression subie par les femmes dans leurs relations sexuelles. 9 femmes sur 10 ont déjà ressenti une pression de la part d'un partenaire pour avoir un rapport sexuel et une majorité d'entre elles, soit 83,2%, ont vécu cela plusieurs fois ou à chaque fois. De plus, 70% des femmes ont eu des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient jamais envie, souvent pour faire plaisir à leur partenaire ou éviter des justifications. L'enquête montre également qu'une femme sur deux a vécu un rapport sexuel non consenti avec pénétration et que celles qui commencent leur vie sexuelle avec un acte non désiré sont plus susceptibles de rencontrer des violences par la suite. La violence psychologique est fréquente. Près de la moitié des femmes ont subi des propos dévalorisants comme frigides ou coincées après avoir refusé un rapport.
Une large proportion de femmes, 8 sur 10, rapportent avoir vécu des violences psychologiques, physiques ou sexuelles dans le cadre de leur relation intime. Dans certains cas, des menaces de rupture ou d'infidélité sont utilisées pour exercer de la pression et une femme sur deux admet avoir cédé après une insistance. Plus de 25% des femmes affirment avoir été pénétrées sans consentement et 28% ont subi des actes sexuels alors qu'elles étaient endormies. Enfin, l'enquête met en évidence l'absence d'écoute des hommes, avec 3 femmes sur 4 ayant déjà demandé l'interruption d'un rapport sexuel, mais dans plus d'un cas sur 3, celui-ci a continué malgré leur refus. La situation met en lumière l'ampleur des violences subies et la nécessité de repenser le consentement dans les relations. Après avoir parlé du consentement, nous allons aborder un sujet lourd mais important qui est le viol. Le viol est une forme grave de violence sexuelle où une personne est contrainte à des rapports sexuels sans son consentement par la force, la menace ou la manipulation. Il est important de comprendre que le consentement est toujours un choix libre et éclairé et que le viol n'a jamais été la faute de la victime.
Les conséquences du viol sont la plupart du temps invisibles mais dévastatrices. Au-delà des blessures physiques, les victimes souffrent souvent de traumatismes psychologiques comme le stress post-traumatique, de la dépression ou même de l'anxiété. Cela peut avoir un impact profond sur leur vie, affectant leur confiance en elles-mêmes et leurs relations futures. Malheureusement, trop de victimes restent silencieuses par peur de ne pas être crues ou d'être jugées. C'est là que nous devons intervenir en brisant ce silence et en créant un environnement de soutien. En écoutant sans juger et en apportant une aide concrète, nous pouvons aider à reconstruire ces vies brisées. Il existe aujourd'hui des ressources pour soutenir ces victimes, comme des associations ou des services spécialisés. Si vous êtes victime ou témoin de violences sexuelles, il existe des numéros d'urgence et des plateformes où vous pouvez trouver une écoute bienveillante et un accompagnement. Nous pouvons également ici faire le lien avec un procès qui a touché le monde entier. Il s'agit bien sûr du procès des viols de Mazan, qui a mis en lumière les agressions sexuelles commises par plusieurs hommes envers la victime Gisèle Pellicot, dans la commune de Mazan, dans le Vaucluse. Les faits se sont déroulés pendant plusieurs mois et ont été marqués par des violences physiques et psychologiques. Les accusés, un groupe d'une cinquantaine d'hommes, ont été jugés pour des actes de viol, de violence sexuelle et de manipulation sur une victime vulnérable.
Le tribunal a rendu son verdict et les auteurs de ces actes ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 15 ans. Cette condamnation témoigne de l'engagement de la justice dans la lutte contre les violences sexuelles et rappelle que de tels crimes doivent être punis avec la plus grande rigueur. En conclusion, ce procès illustre l'importance de combattre les violences sexuelles sous toutes leurs formes. Il est essentiel de continuer à sensibiliser et à éduquer sur le consentement pour que chacun puisse évoluer dans un environnement respectueux et sûr. Les hommes responsables de ces viols ont été condamnés, mais la lutte pour la protection des victimes et le respect des droits humains continue. Enfin, voici les numéros qui peuvent vous être utiles si vous êtes victime de violences sexistes et sexuelles. Avec tout d'abord le 3919, qui est une plateforme téléphonique d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles. Vous avez ensuite le 119, qui est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. Et également le 17, qui est bien sûr la police ou le 114 par SMS si vous ne pouvez pas parler. Il est aussi possible d'effectuer une pré-plainte en ligne. Le chat de l'association En Avant Toutes est gratuit et anonyme. Il s'adresse aux femmes victimes de violences sexiste et sexuelle. Il est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 21h.
Et enfin, dans une ambiance plus légère, nous avons décidé de vous parler des protections hygiéniques. Les protections menstruelles se divisent en 2 catégories, internes et externes. Les protections internes, comme les tampons, 60 à 80% des Françaises seraient aujourd'hui concernées par le port de tampons, et les coupes menstruelles sont insérées dans le vagin pour absorber le flux menstruel. Les tampons sont jetables tandis que les coupes menstruelles sont réutilisables. Les protections externes, quant à elles, comprennent les serviettes hygiéniques, les protège-lips et les culottes de règles qui sont placées sur le sous-vêtement pour absorber le flux. Les serviettes et protège-lips peuvent être jetables ou réutilisables et les culottes de règles sont lavables et portables pendant toute la durée des règles.
Bien que les protections menstruelles soient généralement sûres, il existe des risques sanitaires, notamment le syndrome du choc toxique, SCT, principalement associé aux protections internes. Ce risque survient lorsque des bactéries comme le Staphylococcus aureus se multiplient dans le vagin en raison du sang stagné. Cela peut provoquer une toxine qui, si elle pénètre dans le sang, entraîne des symptômes tels qu'une forte fièvre, des douleurs corporelles ou bien une éruption cutanée. Cependant, ce phénomène reste rare et peut être évité en suivant les recommandations d'utilisation, telles que de ne pas garder un tampon plus de 6 heures et de ne pas le porter toute la nuit. En cas de symptômes inquiétants, il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de santé. Environ 1% des femmes portent dans leur vagin une bactérie de la famille des staphylocoques dorés sans que cela se traduise par des symptômes. Dans certaines conditions, la présence de cette bactérie peut entraîner un syndrome du choc toxique au moment des règles si elles portent des protections périodiques internes.
En effet, lors du port d'un tampon ou d'une coupelle menstruelle, le sang stagne dans le vagin. Cela crée un environnement très favorable à la multiplication du staphylocoque. Cette bactérie sécrète une toxine qui, par la circulation sanguine, se répand dans l'organisme et provoque un choc toxique. Voilà, nous avons abordé tout ce qu'il y a à savoir sur la santé sexuelle et ce qui vous concerne, chers étudiants. On voulait tout de même, avant de se quitter, vous rappeler qu'a lieu sur votre campus un café santé, un espace convivial pour échanger autour d'un café, jouer et discuter de votre santé. C'est l'occasion de poser des questions, de rencontrer des professionnels de santé, tout en passant un moment agréable et détendu. Alors nous vous informons que les prochains rendez-vous auront lieu le 16 janvier, le 20 février, le 20 mars, le 17 avril et enfin le 15 mai. A noter également que l'entrée est libre et que votre café santé se déroulera de 16h à 18h au foyer étudiant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles et que vous n'hésiterez plus à explorer ces dispositifs et en profiter pleinement. Nous, on va se retrouver après les vacances pour de nouvelles émissions. Alors à tous, je vous souhaite de très belles vacances, de joyeuses fêtes avec vos proches.
Bonnes vacances à vous.
Passez de bonnes vacances.